Aujourd'hui, une émission sur la peur.
Être et savoir, Louise Touret.
Nous vivons tous avec nos peurs, intimes et collectives. La peur est une composante majeure de l'expérience humaine, de la vôtre, chers auditeurs et auditrices, de la mienne, c'est certain. La peur est certes nécessaire, mais il faudra bien réussir à ce qu'elle ne garde qu'une place de garde-fou et apprendre à la surmonter pour vivre, pour éduquer, puisque c'est le sujet qui nous intéresse ici. Alors que faire de la peur, des peurs, des enfants? Comment les aider à les surmonter et comment vaincre terreurs et effrois quand nous-mêmes avons peur et particulièrement aujourd'hui? Peur de l'avenir, du terrorisme, du réchauffement climatique pour prendre les exemples les plus évidents. Ces questions sont, semble-t-il, particulièrement présentes dans l'esprit des parents à l'heure où ceux-ci déclarent majoritairement considérer que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Ça, c'est pour la peur côté face. Mais la peur côté pile, et c'est heureux, est aussi un objet poétique et un magnifique sujet pour les productions artistiques et culturelles. Et le plaisir d'avoir peur fait bien partie des expériences fondatrices de l'enfance et de l'adolescence. Ainsi, nous évoquerons la peur dans la littérature et le cinéma avec nos invités. Nos invités, Hélène Frappard, romancière, critique de cinéma entre autres. Elle est avec Antoine Pellissolo qui a publié des ouvrages sur la peur et les phobies. Et Éléonore Théry, journaliste pour le magazine Do Little, notre partenaire, puisque ce prochain numéro de Do Little est consacré à la peur. La leçon de choses de Sophie Bobert avec Philippe Besson. L'école, c'est pas des années où on a rigolé, raconte l'écrivain, fils d'instituteur, qui décida très jeune d'assumer son homosexualité et malgré les ravages du sida, d'être du côté de la légèreté. Nous le retrouvons à 17h52. Et je salue donc mes trois invités. Éléonore Théry, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, j'ai dit que vous étiez journaliste à Do Little. Vous écrivez également pour Le Quotidien de l'Art, M, le magazine du Monde. Alors, ce numéro de Do Little sort demain. Il est consacré à la peur. C'est ce partenariat qui nous a donné l'idée. J'ai moi-même signé un article sur la phobie scolaire. C'est pas du tout le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Il y a plein de choses dans ce numéro, dont votre article, Éléonore, consacré au loup et à la peur du loup.
Oui, moi je me suis intéressée au loup parce qu'il semblait que c'était vraiment la figure qui incarne la peur dans l'enfance, en tout cas traditionnellement, dans les contes pour enfants. Et je me suis demandé pourquoi a-t-on si peur du loup? Et pour répondre à cette question, j'ai interrogé Michel Pastoureau, qui a écrit un livre sur le sujet il y a quelques mois au Seuil, qui répond à ces questions en nous expliquant que c'est avant tout parce qu'il est physiquement très dangereux, le seul animal à s'attaquer à l'humain. Et il nous raconte tout un tas d'autres choses, qui est la bête du Gévaudan, d'où vient le loup-garou, voilà, plein d'autres détails sur cette figure du loup.
Et ça prolonge un petit peu l'émission qu'on avait faite avec Michel Pastoureau il y a quelques semaines, au mois de novembre ou décembre peut-être, je crois. En tout cas, on peut la podcaster. Il y a aussi des figures assez étonnantes, des figures qui font peur aux enfants, comme celle du clown.
Effectivement, on a fait un papier sur la peur du clown qui concerne bizarrement pas seulement les enfants mais aussi des adultes et on constate que ça les poursuit très longtemps. Donc voilà, on a interrogé plusieurs personnes qui étaient atteintes de coulrophobie puisqu'il faut désigner
les peurs par leur nom.
Les peurs par leur nom, la coulrophobie, voilà.
On va revenir sur ce numéro. Antoine Pellissolo, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans votre livre sur les phobies, faut-il en avoir peur? Celui-là a été publié en 2012. Il y a une liste des phobies avec tous les noms. Donc, la coulrophobie, la peur des clowns, celle qu'on connaît comme la peur des araignées, l'arachnophobie, mais aussi la peur d'avoir peur. La fameuse phobophobie. Donc professeur de psychiatrie, chef de service à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, et vous avez également publié « Vous êtes votre meilleur psy ». Dans ce livre de 2012, celui sur les phobies, vous avez mis de très intéressantes et très jolies citations en tête de chaque chapitre. J'ai retenu celle-là, elle est de Romain Gary, Émile Ajar, c'est selon, dans La vie devant soi. C'est là que je viens me cacher quand j'ai peur. Peur de quoi, Madame Rosa? C'est pas nécessaire d'avoir des raisons pour avoir peur, Momo. Alors c'est ça?
Oui, parce que ça dit tout, c'est-à-dire que la peur c'est avant tout un danger immédiat pour les êtres vivants que nous sommes, mais c'est aussi tous les dangers virtuels, les risques, les menaces virtuelles, celles de nos imaginaires, et effectivement on peut avoir des réactions, alors souvent qu'on n'explique pas sur le moment, qui ont souvent quand même une motivation, mais qui sont parfois très complexes, et c'est ça la richesse aussi de ce domaine-là. Donc il n'y a pas toujours des raisons, on n'a pas besoin d'avoir des raisons, et c'est un moteur pour beaucoup de choses aussi.
Et dans cet irrationnel, il y a beaucoup de communication entre les générations.
Oui, alors il y a tout bêtement déjà une préparation. Alors d'un point de vue scientifique, c'est ce qu'on a hérité de notre patrimoine génétique, qui est très important parce qu'on a des systèmes de défense qui nous sont transmis par l'espèce pour se méfier, pour se protéger. Et puis il y a effectivement tout ce qu'on nous a transmis de manière plus, on peut dire, humaine, notre éducation directement, et puis effectivement les générations antérieures aussi qui transmettent l'imaginaire des fameux contes ou des légendes, et puis des choses plus ou moins régionales, plus ou moins familiales, plus ou moins culturelles.
Culturelles et personnelles, mais c'est souvent croisé. Hélène Frappa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, traductrice, critique de cinéma. Votre dernier ouvrage s'intitule Le Dernier Fleuve. Il est publié chez Actes Sud. Comme cet ouvrage dont il est un peu, d'une certaine manière, la continuation, N'oublie pas de respirer. Ça, c'était en 2014. J'ai beaucoup aimé les deux, je dois vous le dire. Il y est question, d'une certaine manière, de peur, peut-être parce qu'il y est question d'enfance. Et ce lien, bien, il est très fort dans ces textes. Est-ce que je me trompe?
Oui, le livre N'oublie pas de respirer vient directement d'une sorte d'enquête sur la peur que j'ai menée. Enfin, je devais faire une résidence d'écrivain dans un collège, le collège Politzer à La Courneuve. Et avant cette résidence qui devait commencer au début de l'année, enfin en septembre, j'avais passé l'été dans un territoire qui est vraiment un vrai territoire de peur pour moi, qui est la Corse, d'où ma mère était issue, où je n'étais pas retournée depuis longtemps. Territoire de peur, surtout à cause de la transmission des récits, où il y a cette sorte de tradition que j'ai toujours, à vrai dire, qui m'a toujours fait presque rire tellement elle est ambivalente, qui est cette transmission de contes aux enfants le soir, soi-disant pour les endormir, et qui en réalité manque plutôt de les réveiller, de leur donner des cauchemars. Ces récits qu'on fait, il y a beaucoup de dans certains pays africains aussi, ces traditions de raconter des histoires de femmes changées en animal, etc. De créatures qui sont incroyablement effrayantes et qui laissent l'enfant comme ça à l'orée de la nuit dans un état à la fois de jouissance de la peur. Parce que la peur est une forme de détente aussi, c'est ce que disait Hitchcock. Hein. Il disait que les acteurs devraient revenir à cet art du bébé qui passe son temps à avoir peur ou à rire. Comme si finalement rire était une forme de détente de la peur, comme si les deux étaient liés.
C'est ce fameux jeu que tout le monde pratique avec les tout-petits. À partir de quelques mois, on se cache et puis on se montre et l'enfant éclate de rire. C'est le mélange de la peur et de la surprise.
Voilà,
qui crée une forme de joie très primitive.
Voilà, primitive, organique en fait, une sorte de détente comme ça, organique. Et donc j'étais allée interroger des vieux, des vieilles du village de ma mère qui était, et je leur avais demandé j'avais recueilli en fait toutes sortes de récits de peur. En Corse, il y a que ça, donc c'était voilà, des récits de peur de femmes, enfin les sorcières, les mazères, et ces femmes qui vont dans le maquis la nuit et qui sont armées d'un bâton ou d'une arme, etc. Et qui sont en transe, en fait, dans une sorte de transe chamanique, et qui reconnaissent sur le visage d'un animal, enfin reconnaissent, ou rêvent, hein, sur le visage d'un animal, le visage de quelqu'un qui va mourir. Et donc il y avait cette tradition en Corse assez fascinante des enterrements fantômes où on enterrait, en fait, on enterrait quelqu'un que la sorcière avait identifié comme devant mourir. Et si on faisait cet enterrement fantôme un an avant la mort supposée, peut-être on pouvait le sauver, etc. Donc il y avait tous ces récits qui ont donné lieu ensuite à un travail avec ces adolescents d'une classe de quatrième qui eux-mêmes ont fait ce travail-là, que j'ai interrogé sur la peur, à qui j'ai montré tout ce qui est tout un champ exclu du savoir scolaire, souvent, qui est les films d'horreur, en fait, les films de peur. On parlait des clowns tout à l'heure, mais il y a un des plus beaux films jamais faits sur les clowns, c'est le film de Jacques Tourneur, qui s'appelle Rendez-vous avec la peur, où on voit où la figure satanique du film, à un moment, se déguise en clown, et on voit bien cette ambivalence absolue, finalement, qui renvoie, je pense, à l'ambivalence du territoire qui est censé être l'abri de l'enfant, la maison, et qui est majoritairement celui qui le menace, puisque quand même les enfants sont plutôt menacés à l'intérieur du territoire familial qu'à l'extérieur du territoire familial. Donc il y a tous ces récits-là qui sont qui planent comme ça, je pense, autour aussi de cette figure du clown. Et ça avait donné ce livre, et qui est prolongé dans Le Dernier Fleuve, où ces deux enfants, seuls au monde, deux enfants sauvages, Mo et Joe, deux petits frères, un grand frère, un petit frère, vont affronter aussi leur peur.
Alors, ce qui fait peur, c'est peut-être de projeter des choses en tant qu'adulte sur des enfants seuls, mais on y reviendra. Ce travail avec des élèves, vous leur avez parlé de la Corse, ils vous ont parlé de l'Afrique, pour ceux qui venaient d'Afrique, ou ils vous ont parlé de leurs origines familiales. Ça prenait bien, vous avez fait dialoguer.
Je trouvais que la moindre des choses, c'était puisque je leur demandais quelque chose qui était quand même difficile, hein, qui était assez intime, qui était assez courageux, d'aller trouver autour des proches qui les élevaient, qui n'étaient pas nécessairement leurs parents. Bon, ça, c'était eux qui décidaient de recueillir des récits de peur. Je me disais que la moindre des choses, c'était moi de m'y livrer. Donc, je m'y étais livrée, j'avais écrit un texte que je leur ai donné. Et ensuite, chacun a recueilli. Il y avait beaucoup d'histoires qui, très belles, mais qui étaient des histoires, en plus, qui n'avaient pas droit de citer dans ce territoire soi-disant neutre de l'école républicaine, où il n'y a pas, où des histoires chamaniques, des histoires de possession, des histoires de, où un enfant est censé être la créature presque ressuscitée d'un oncle qui est mort, etc. Bon, toutes ces histoires-là, soudain, avaient droit de citer, aussi bien à travers des textes littéraires que je leur faisais lire, des films que je leur montrais, etc. Et ça a donné, oui, quelque chose de très fort.
Et ces histoires peuvent prendre racine dans plein de territoires différents. On a parlé de la Corse, on a parlé de l'Afrique, on peut parler de n'importe quel territoire. La Dame Blanche, par exemple, c'est un mythe enfantin qui circule partout. Ça a donné lieu à des créations d'enfants. On a retrouvé une archive dans Les Passagers de la Nuit sur France Culture.
J'ai fait des documentaires.
Voilà, et on avait entendu des élèves comme celui-ci qui a inventé une petite histoire effrayante.
C'était un certain jeudi 8 octobre 1987, au pied de la piscine municipale de la ville. J'étais assis avec quelques amis devant la piscine municipale nommée la piscine Henri Vallon. Mes deux amis sont partis acheter quelques boissons et mon autre ami était resté avec moi et parti aux toilettes car on était quatre. Puis soudain, je sentis une présence derrière moi. Je me retourna et je vis une longue personne vêtue d'un long manteau tout noir et des longues bottes noires. Une capuche cachait son visage, le manteau recouvrait tout son corps. Mais cela s'est passé même pas en 2 secondes. Cette personne avait aussi une épée en argent qui brillait. Quand j'ai vu cela, ça m'a choqué. J'étais sur le point de m'enfuir jusqu'à que cette personne si étrange se retrouvât à l'autre bout de la route, en face exactement. Et tout d'un coup, cette personne se metta à courir et disparut comme de la poussière. Plus de 3 mois se sont écoulés. Mon pire cauchemar, c'était que cette personne que j'avais vue à la piscine m'avait tué. D'où vient cette créature ?
D'où vient cette créature, création d'élèves très spontanée ? Alors on entend, il y a des petits problèmes de passé simple. On espère qu'ils ont été corrigés depuis. Antoine Pellissolo, vous qui êtes psychiatre, un petit commentaire sur ce travail qu'on peut faire avec la peur, avec des enfants et des adolescents.
Alors tout de suite, moi, en l'écoutant, j'ai pensé tout de suite à un cauchemar. Il l'a dit à un moment, donc je ne sais pas si finalement il raconte un vrai cauchemar ou si c'est une construction complète. Mais je crois que très vite, on voit que le rêve et notamment le cauchemar permet de conjurer un certain nombre de choses, de rejouer des scènes de peur pour s'y habituer tout simplement. Et on sait que le meilleur moyen de combattre la peur, c'est de s'habituer à la ressentir pour ne plus avoir peur de la peur, puisque vraiment le noyau dur des peurs éventuellement pathologiques, c'est qu'elles se auto-renforcent. Et donc, la plupart des phobies, par exemple, viennent d'une peur d'avoir peur. Et là, le moyen de jouer volontairement dans des contes, dans des lectures, dans des jeux, ou de peut-être une des fonctions du rêve et des cauchemars, en l'occurrence, ça peut être la même chose, de répéter un certain nombre de choses pour finalement prendre un peu de distance et banaliser un certain nombre de choses. Et donc, les fameux personnages qui soient des animaux, des êtres humains effrayants, je pense, sont souvent construits pour finalement arriver à les contrôler, comme si on contrôlait des petits personnages qui seraient en notre pouvoir, alors que les enfants ont évidemment au départ la sensation d'être eux-mêmes le jouet de ces forces qui les dépassent.
Cette question du contrôle, elle est tout à fait centrale dans la peur, et la phobie, c'est une façon de contrôler sa peur, mais une mauvaise façon de la contrôler, puisque la phobie, elle a pour fonction de rassurer. On n'a qu'un objet qui nous fait peur. On a davantage, d'après ce que j'ai compris, l'impression de le contrôler. Mais j'ai l'impression que, une autre impression donc, que aujourd'hui on fait beaucoup la confusion entre peur et phobie. Les mots en grec étaient bien distincts. D'ailleurs, c'était même relié à des divinités dans le monde grec et dans le monde latin. D'un côté, la crainte, deimos, d'un côté, la peur, phobos. Aujourd'hui, et dans le langage le plus courant, un peu vulgaire, on a tendance à utiliser le mot phobie à tout bout de champ. Antoine Pellissolo.
Oui, alors c'est les dérives du langage, mais le spectre lui-même de la peur, moi j'aime bien le mot spectre parce qu'il y a à la fois le fantôme et les gammes qui sont très larges. Ça va d'une part dans les sensations de choses très physiques à des choses très mentales, et dans les déclencheurs, aussi bien des choses immédiates, très physiques aussi, très sensorielles. On sursaute quand on entend un bruit, on va réagir à une image menaçante. Donc ça, c'est dans l'immédiateté, dans la seconde, dans la milliseconde. Et puis on a des anticipations, et là c'est plus mental, c'est plus les projections dans l'avenir qui sont liées à l'incertitude en général. Et donc là, effectivement, on est plutôt vers l'anxiété, l'inquiétude pathologique. Mais tout ça se superpose, et on n'a pas des catégories complètement disjointes, et ça fait l'expérience humaine, l'éprouver à la fois sensorielle, émotionnelle, cognitif, comme on dit, la pensée, et c'est une gamme très riche et très large.
Et Léonore Théry, il y a presque quelque chose d'amusant à demander aux enfants de parler de leur peur, c'est un petit peu l'objet de ce numéro, dédramatiser. Il est aussi à l'attention des parents, j'imagine.
Absolument, mais ce dont vous parliez trouve un écho particulier dans le numéro, avec un reportage qu'on a fait sur le concept des boîtes à peur, qui sont donc des véritables boîtes physiques qui sont proposées dans un certain nombre d'écoles. En France, mais avant tout aux États-Unis. Et donc l'idée, c'est de faire dessiner aux enfants ce qui leur fait peur. Donc chez les plus petits, un monstre avec des grandes dents, ou alors écrire ce qui leur fait peur au quotidien, et de glisser ces papiers dans une boîte. Avec après deux options, soit le professeur à l'imagination un peu débordante dit qu'il va l'enterrer au fin fond du Sahara, je pense que ça c'est pour les plus petits, soit c'est l'occasion pour l'enseignant de parler de ses peurs avec les enfants, et du coup ce dont vous parliez, de les mettre à distance, voilà.
Alors, une autre bonne raison de parler de la peur, c'est qu'elle occupe un espace particulier dans le monde contemporain. On en a eu un témoignage cette année avec la parution d'un très très intéressant recueil de textes, « De quoi avons-nous peur ?». C'est un essai inédit chez Folio, donc en poche. Il a été dirigé par Jean Birnbaum, que les auditeurs de France Culture connaissent bien, parce qu'on l'entend chez l'ami Guillaume Erner dans les matins, le jeudi. Donc « De quoi avons-nous peur ?» regroupe les interventions de plein d'intellectuels et artistes, Alain Corbin, Jean-Pierre Dupuis, Elisabeth Roudinesco, bon ça c'est plutôt des intellectuels, Céline Spector, qui est écrivain, Daniel Mesguich, on va l'entendre, et c'est un recueil qui a été élaboré après un forum philo au Monde, Le Mans, qui a été qui s'est produit fin 2017. Jean Birnbaum donc nous explique comment ce thème a été choisi. Il est encore question de transmission et d'éducation.
À chaque fois, on va dans les lycées du Mans, dans plusieurs lycées, à la fois au centre-ville et dans la banlieue ouvrière, notamment à Allonnes. Et puis, on demande aux élèves qu'est-ce qui vous travaille finalement, qu'est-ce qui traîne dans vos inconscients ou dans vos angoisses ou dans vos préoccupations. Quel est le thème que vous voudriez voir traiter l'année prochaine? Et cette année-là, justement, on a été très frappé par le fait que ce qui remontait beaucoup, c'était la peur. La peur, ça revenait de partout, la peur de catastrophe écologique, la peur du nucléaire, la peur du terrorisme. La peur au quotidien, la peur transmise, la peur telle qu'elle circule. Et on s'est dit, pourquoi ne pas choisir ce thème, nous qui sommes toujours dans une espèce de préoccupation un peu journalistique ou comme ça, presque pas marketing, mais enfin quand même, on veut que le sujet soit désirable. Et donc, je pense que tout au long de ces années, on avait choisi des thèmes comme l'amour, le rire, l'origine, le temps. Et jamais on aurait osé nous-mêmes, par nous-mêmes, choisir un thème aussi anxiogène, comme on dit parfois dans les rédactions, que la peur. Et bien finalement, ce sont les élèves eux-mêmes qui nous l'ont proposé et presque imposé, parce que ça relevait presque de l'évidence et de l'urgence.
Est-ce que cette époque est particulièrement effroyable ?
Je suis pas sûr, je crois qu'on se dit toujours ça à chaque époque finalement, mais c'est vrai que la peur, c'est aussi quelque chose dont on hérite et on se situe dans une espèce d'échelle ou de circulation d'héritage, de legs des peurs collectives et individuelles. Il y a une chose que je trouve très belle dans le texte de Daniel Mesguich, qui est comédien et metteur en scène. Dans son texte qu'il a donné à ce collectif, il dit qu'il vient d'être, en fait, il venait d'avoir un enfant à ce moment-là. Et ça, il dit, ça fait 6 mois que je suis plongé dans les pleurs d'un enfant. Et il dit, moi, dans ces pleurs, je lis tout un tas de peurs qui sont des peurs de choses sans remède, des peurs sans remède, des peurs de l'irrémédiable, des peurs de plus jamais se réveiller, la peur de plus jamais avoir à manger. Et donc, il situe ça dans une espèce de circulation entre les parents, les enfants. Je pense que, effectivement, souvent, pour surmonter ses propres peurs, il faut avoir le courage d'affronter celles que vos parents vous ont léguées. Et pour ça, sans doute que le meilleur moyen, c'est de s'en remettre aux aînés, aux aïeux et aux grands-parents. Alors en même temps, ce qui est intéressant, c'est que la figure de l'enfant circule beaucoup et très présente au fil des pages dans ce livre. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'enjeu, l'enjeu éducatif n'est pas frontalement abordé. Mais l'enfant, dès le début, dans la leçon inaugurale de Patrick Boucheron, puis ensuite chez Jean-Pierre Dupuis, quand il parle du nucléaire et de Trump, qui est incapable justement d'avoir quelque part l'ironie d'un enfant qui se comporte comme un enfant de 9 ans, mais qui n'a pas la capacité ironique d'un enfant. Et donc Daniel Mesguich, il parle de son bébé et des pleurs de son bébé pour se construire et aussi pour transmettre à ses enfants une bonne manière d'affronter les peurs de demain et les peurs de l'avenir. Eh bien, il faut aussi être capable de leur transmettre un certain rapport au passé, un certain rapport à la peur telle qu'elle est héritée, telle qu'elle circule, telle qu'elle est immédiatement prise parce qu'elle est humaine, non pas seulement dans quelque chose d'animal, de purement charnel, mais aussi dans le symbolique, dans ce qui se transmet et dans les failles dont on hérite et qu'on est capable d'affronter parce qu'elles sont toujours devant nous et en même temps parce qu'elles ont toujours déjà eu lieu.
Et le véritable effroi, j'ai peur en disant ça, c'est d'imaginer une peur qu'on n'a jamais connue et de se figurer ce que pourrait être une peur inédite.
C'est ce que, à nouveau, Derrida appelle l'événement, c'est-à-dire la peur ultime, la peur vraie, la peur vraiment bleue, ce serait toujours la peur inédite, la peur de quelque chose qui n'est jamais advenu. Et en même temps, justement, en tant que nous sommes humains et que on est toujours inscrit à la fois dans le passé et livré à l'avenir, eh ben je pense que ces peurs inédites, en fait, souvent inconsciemment, elles rejoignent des choses qu'on a vécues ou que d'autres ont vécues. Une des choses qu'il faut qu'on a beaucoup de mal à affronter, les peurs en tant qu'elles sont inédites, les peurs inédites qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est aussi qu'on a beaucoup perdu le rapport à l'inconscient. On a beaucoup perdu le rapport à ce qui se transmet, mais souterrainement, d'inconscient à inconscient, en deçà du langage, de corps à corps, avant même que des mots soient prononcés. Et une des choses dont je suis archi convaincu, c'est que quand on a des enfants, quand on veut s'adresser à des enfants, quand on est dans l'adresse, eh bien on doit transmettre à ses enfants une certaine, tout de suite une certaine attention, une certaine dimension, une certaine écoute de l'inconscient et de ce qui nous échappe.
Écoutez Être et Savoir sur France Culture. Nous parlons de la peur dans l'éducation. La peur, la nôtre, celle des adultes, les peurs des enfants et puis ces peurs collectives que j'ai abordées avec Jean-Birnbaum qu'on vient d'entendre à l'instant à propos de ce recueil. De quoi avons-nous peur? Recueil de textes publié en poche chez Folio. Hélène Frappa, cette peur du monde de demain, d'une catastrophe éventuelle, une catastrophe environnementale, moi je la trouve très présente dans votre dernier ouvrage. Alors pas seulement sous forme de peur, mais aussi parce que le dernier fleuve, c'est peut-être dans le monde d'après que se déroule cette histoire, un monde qui paraît post-apocalyptique et qui, moi, m'a un petit peu, même beaucoup, effrayée.
Mais c'est un roman qui, d'une certaine manière, a été rattrapé par la peur. C'est-à-dire que entre le moment où j'ai commencé à l'écrire il y a plusieurs années et puis le moment où je l'ai achevé, où j'ai trouvé ce titre, le dernier fleuve, qui est relativement explicite, il y a eu une accélération historique qui d'ailleurs est, enfin, qui continue et que je trouve assez effrayante. Je trouve que voilà, ça depuis quelques années, je saurais pas mesurer exactement, mais vraiment, j'ai un sentiment, et pas, je suis pas la seule, mais je suis entourée de gens qui ont un sentiment d'accélération historique, notamment à cause du dérèglement climatique. Et voilà, et ça a été rattrapé, oui, le livre a été rattrapé par cette forme de peur qui fait que c'est vrai que moi, c'est la première fois que je ressens depuis quelques années vraiment de manière aiguë, en tant qu'individu, en tant que citoyen, enfin, quelque chose qui a à voir avec la conscience de ce que Pascal appelait le divertissement, c'est-à-dire un sentiment d'absurdité, souvent, de vivre, de continuer à vivre, à expédier les affaires courantes, à vivre comme si de rien n'était, alors que quelque chose se prépare sur lequel, moi, en tant qu'individu, je suis relativement moi, c'est un moi générique, hein, impuissante, et qui, en effet, est source d'effroi. Est source d'effroi, oui.
Point de vue d'individu.
D'effroi et d'absurdité, oui. Oui, d'absurdité aussi, d'une forme de... Je pense que, alors, tout à l'heure, on entendait ce jeune garçon, ce collégien, il ne racontait pas sa peur, en fait. Il l'avait écrite. Et c'est très différent. Je pense que c'est peut-être... Moi, là où l'humanité en est,
C'était un récit de création, c'est comme
voilà,
ça que je l'ai présenté.
Voilà, et je pense que c'est très différent. Enfin, je précise ça parce que je pense que peut-être que l'espace de liberté qui nous reste, il est là. Juste, enfin, dans le fait de s'emparer dans ce qui est un lieu de liberté et liberté aussi de par rapport à la peur. Hein. Une phrase très belle que disait une extraordinaire actrice, Marilyn Monroe, elle disait « J'appartiens à la peur ». Je pense que la peur, ça a à voir avec toujours avec une forme de possession, être possédé par la peur, appartenir à la peur. La liberté consiste à faire un pas de côté par rapport à ce fait qu'on peut appartenir aussi en tant qu'être humain. C'est aussi notre condition humaine, la peur. Et l'écriture peut être une forme de liberté par rapport à ça, par rapport à cette peur qui, me semble que nous sommes à une période, en effet, où nous sommes condamnés soit à l'oublier, alors comment les êtres humains l'oublient généralement? En consommant. Je suis assez frappée par l'absurdité inouïe à notre époque de cette espèce de consommation comme forme de divertissement ultime, qui ne fait d'ailleurs qu'accélérer ce qui est en train d'arriver, en effet, hein, l'annoncée disparition de l'espèce humaine, pour le dire clairement. Et peut-être qu'il y a des zones de liberté qui ont à voir avec l'écriture, enfin pour moi, ou avec l'art, qui sont les seules qui nous restent.
Antoine Pellissolo, dans Les peurs, les phobies dont on vous parle, est-ce que cette actualité ou d'autres actualités sont présentes ou est-ce que, au contraire, la peur reste quelque chose qui s'exprime quand elle se transforme en phobie et quand on vient voir un psychiatre en quelque chose de particulièrement intime? J'ajoute que dans votre livre sur les phobies, vous dites qu'un grand motif de consultation, c'est la peur de transmettre sa peur à ses enfants.
Oui, c'est le cas des parents qui ont vécu tant bien que mal avec leur frayeur ou voire leur pathologie depuis longtemps. Bon, parce qu'on peut s'arranger avec le plus souvent. Et puis à un moment donné, ils se disent, ben, j'ai des enfants, je me vois à leur âge et je me vois pas leur transmettre des choses comme ça qui seraient avec une forte culpabilité. Alors, en général, l'actualité, en tout cas récente, sur ces sujets-là que vous évoquez, moi je la vois pas beaucoup peut-être encore, hein, ça va peut-être venir, mais émerger. Je pense que les personnes qui souffrent et qui viennent nous voir, et quand elles viennent nous voir, alors moi je travaille en plus à l'hôpital, donc c'est souvent avec quand même un degré de, je dirais, de difficulté assez élevé. Et de pathologies vraiment difficiles au quotidien. Je crois qu'elles ont tellement de focalisation sur le contenu de leurs peurs qui sont irrationnelles, mais qui les habitent comme ça depuis tellement longtemps que les informations de l'environnement, en dehors de créer une espèce de flou et de perte de repères, ça c'est sûr, mais le contenu en général ne porte pas là-dessus pour l'instant. Et même au contraire, je dirais que très souvent c'est un sujet d'auto-réalisation, de combat que certains prennent corps à corps en se disant bon ben au moins je vais m'investir dans des choses comme ça quand ils ont voilà, ce type de cause en tête et qu'ils peuvent s'investir sur bon ben des dangers là qui sont partagés, qui sont réels. On n'est plus dans l'absurde et dans l'irrationnel. Donc pour l'instant, encore une fois, je trouve que les peurs restent les peurs ancestrales quoi de sûrement de tous les temps.
Un sujet dont on me parle énormément, ce sont les attentats et les exercices d'alerte attentat dans les écoles qui peuvent s'avérer extrêmement effrayants. Alors ça dépend comment c'est fait, hein. Là ce sont des récits rapportés, des exercices qui rappellent un danger, alors plus ou moins proche, c'est difficile, très difficile à évaluer aux enfants, aux familles, aux enseignants et aux équipes. Cette peur aussi, elle est très présente en France, partout, parce que les attentats ont frappé plein d'endroits différents du territoire. Antoine Pellissolo, sur cette peur en particulier.
Oui, je crois qu'on a vécu, alors collectivement, une époque un peu historique, une période historique où on est passé d'une espèce d'insouciance où notre génération, grosso modo, n'avait pas connu la guerre du tout, en tout cas depuis plusieurs décennies, ce qui n'est jamais arrivé. Et donc, on a vécu dans l'insouciance où les choses étaient loin de nous, et on les a, évidemment, et on a été percutés, là, pour des dangers qui étaient sur notre territoire et qui pouvaient frapper n'importe où. Donc, une situation proche de la guerre. Et je crois que pour toutes ces générations-là, qui n'avaient pas vécu ça avant, qui n'étaient pas préparées, ont été meurtries. Et puis c'était le but, hein, le terrorisme, c'est pour terroriser. Donc le résultat est celui-là. Alors aujourd'hui, évidemment, on se dit il faut prévenir autrement, il faut se protéger hein, en cas de récidive. Et c'est dur quand on visualise ça pour des enfants, parce qu'évidemment, on n'imagine pas devoir protéger des enfants, enfin devoir les exposer à ça. Donc je pense que pour les parents, c'est sûrement difficile. Pour les enfants, je ne sais pas, tout dépend comment c'est fait, effectivement, parce que ça peut être fait de manière normalement accompagnée et non effrayante, il faut l'espérer. Mais je pense que ça traumatise beaucoup les parents qui vont avoir là aussi probablement une réaction un peu de culpabilité, de se dire je ne devrais pas exposer mes enfants à ça, alors que c'est pour leur bien, on le sait évidemment.
Dans la lourde tâche d'être parent, la peur prendrait, semble-t-il, de plus en plus de place. Alors, c'est un sujet relativement bien documenté. On le voit, par exemple, à ce que les enfants peuvent faire de manière autonome. En fait, cette place de l'autonomie des enfants, elle se réduit. Par exemple, on a moins le droit, moins tôt en tout cas, de parcourir une certaine distance seule. Éléonore Théry, ça c'est un sujet éducatif, le risque aujourd'hui.
Il y a pas mal d'autres marqueurs de ça, de cette peur qui s'est quand même instillée dans la tête des parents. On parle aux États-Unis de helicopter parenting, les parents hélicoptères qui du coup sont un peu vissés sur la tête de leurs enfants avec une hélice qui tourne toute la journée. Et nous, on a déjà parlé dans le magazine d'un certain nombre d'initiatives pour justement ne plus être dans ces parents hélicoptères.
Alors de quoi s'agit-il ? Il faut confronter les enfants à la peur ?
Alors c'est la solution pour qui est proposée dans plusieurs initiatives. Je pense par exemple à un designer danois qui s'appelle Ole Barslund Nielsen, enfin les Danois m'excuseront parce que c'est probablement pas son nom bien prononcé, qui a lancé Monstrum, qui est en fait des nouvelles aires de jeu. Donc je parle bien des aires de jeu de square, hein, qui sont quand même aujourd'hui complètement aseptisées avec un sol mou, un toboggan de 3 cm pour que les enfants ne se blessent pas.
Moi, j'aime bien.
Donc, ces Danois, ils ont lancé cette ces nouvelles aires de jeu avec l'idée d'instiller un tout petit peu plus de risques, mais de façon maîtrisée, de la couleur, des décors théâtraux. Voilà, l'idée, c'est quand même de confronter un tout petit peu plus l'enfant au risque. Je pense aussi une autre initiative qui est un tout petit peu similaire, mais qui est celle d'un Américain qui s'appelle Mike Lanza, qui milite contre les parents hélicoptères et qui propose chez lui, il a installé dans son jardin ce qu'il appelle un playbirdhood. Et donc, il a l'idée, c'est que les enfants peuvent trouver seuls leurs limites face au risque, avec un dispositif où ils peuvent grimper sur le toit d'une maison, un trampoline géant. La seule condition, c'est que les parents ne sont pas présents dans ce territoire réservé aux enfants.
Voilà, sur une idée de se confronter au risque artificiellement, voilà. Alors qu'il y a 30 ans, 50 ans, eh ben, ce risque, on le trouvait plus normalement, parce qu'on avait juste plus le droit de jouer dehors. Mais la confrontation à la peur, à la terreur, à l'effroi, ben, c'est beaucoup dans la fiction qu'elle se produit. Entendre ce générique me remplit d'effroi, c'est Stranger Things. Alors moi, c'est une série que voilà, j'ai regardée, qui met en scène des enfants. Ça se passe en 82, puis en 83, dans une petite ville américaine imaginaire. On retrouve l'univers de Spielberg, et puis certains films de Spielberg, et puis des monstres dont on ne sait pas très bien d'où ils viennent. Ce sont les enfants qui mènent l'enquête là-dessus. Il y a un complot avec une enfant très mystérieuse qui arrive. Plein d'ingrédients pour avoir très très peur, et c'est très efficace. Ces peurs, elles sont intéressantes parce que dans cette série qui est à destination plutôt des adultes et un peu des adolescents, ce sont bien des enfants qui sont utilisés pour que nous nous projetions peut-être sur des individus vulnérables et pour avoir davantage peur. Mais cette expérience des films qui font peur, films d'horreur et autres que les enfants connaissent très bien, même sans les avoir vus, les titres, les musiques, les slogans. Elle est très fondatrice, Hélène Frappa, vous qui êtes aussi spécialiste du cinéma.
Oui, je pense qu'en écoutant tout ça, je me disais, le problème des enfants, finalement, c'est qu'ils sont entourés d'adultes. C'est-à-dire, je trouve frappée de voir combien la plupart des adultes, en s'exilant de leur enfance, deviennent des personnes, finalement, des personnes qui ne sont plus ces médiums que sont les enfants. Parce que je pense que si tous les films, quasiment tous les films d'horreur, tous les films de peur, tout ce que j'appellerais, pour reprendre une sublime expression de l'écrivaine anglaise Enid Blyton, qui était l'auteur du Club des Cinq, qui d'ailleurs dans la version originale était beaucoup moins aseptisée. Bon, elle avait commencé à écrire enfant parce que elle avait vécu un divorce, le divorce de ses parents, qui était assez étrange, puisqu'ils continuaient à vivre sous le même toit, tout en étant séparés, tout en dissimulant, etc. Bon, une situation qui était relativement effrayante, qui rendait le foyer familial très effrayant. Et elle se racontait chaque soir ce qu'elle appelait des histoires de peur. Elle a commencé à écrire comme ça enfant, ce qui est devenu ensuite le Club des Cinq, etc. Mais cette figure de l'enfant, je voudrais citer une phrase d'un des maîtres qui en sait beaucoup sur la peur, parce qu'il est resté absolument au contact avec cette part d'enfance en lui, sinon il n'aurait jamais pu être écrivain. C'est Stephen King. Et dans Cujo, il écrit Les enfants ne se détournent pas de tout ce que nous savons, de tout ce que nous redoutons. Voilà. Je pense que plutôt que d'avoir des discours de maîtrise, de vérité, nous devrions écouter un petit peu plus ce que les enfants ont à nous apprendre, en fait. Je pense qu'ils ont beaucoup à nous apprendre sur ce qu'est la peur, hein, comment on la vit, et comment aussi elle est un jeu, comment elle est un discours de vérité. Elle nous dit beaucoup de choses sur ces lieux que sont, sur ces monstres tapis sous les livres. Vous citiez Spielberg, bon, quelle est cette chose la plus belle, peut-être cette scène la plus belle d'E.T. La série Stranger Things s'inspire beaucoup, je trouve, de l'univers de E.T. C'est ce moment où ce monstre, hein, qui est littéralement un nouveau-né, hein, E.T., l'extraterrestre, c'est, si on le regarde avec un œil un peu analytique, c'est un nouveau-né. Il a une grosse tête, il a des gros yeux, il est moche comme sont souvent les nouveau-nés avant de devenir des bébés mignons. Il est terrorisé, hein, comme disait le sublime psychiatre pour enfants Winnicott. Il est terrorisé par ce moment de la naissance où il atterrit dans ce monde hostile. Et il est près du frigidaire du foyer familial. Le petit garçon Elliot E.T., c'est le même nom, évidemment, c'est un acronyme, veut lui donner du lait. Et là, il y a toute une scène où tous les enfants veulent nourrir cette créature. La mère est à côté du frigidaire et elle ne le voit pas. La mère ne voit pas E.T. Tous les enfants le voient. Et je pense qu'en une scène, on comprend exactement ce que c'est que ce que nous, adultes, avons à apprendre de l'enfance. Il faut arrêter de donner des leçons, je pense, aux enfants sur la peur. Dans le dernier fleuve, j'ai essayé d'écrire à hauteur d'enfant, ce qui est assez difficile, de se remettre, au sens où je suis malheureusement quand même aussi un peu adulte, malheureusement et heureusement, enfin, c'est pas que négatif, mais enfin, étant en partie adulte, j'ai dû redescendre dans cette cave, comme dit Stephen King, de qu'est notre enfance pour chacun de nous, qui est sous nos pieds, en quelque sorte, et revoir à hauteur d'enfant, et revoir ses peurs à hauteur d'enfant aussi, parce qu'elles sont, en effet, elles sont fondatrices, et elles nous... C'est un savoir, en fait. Il y a un savoir dans ces peurs. Ça n'est pas que négatif, je pense. Il y a un savoir. Et je disais, c'est un jeu, donc il y a aussi une forme de joie. C'est un jeu. Le jeu, c'est toujours une forme de liberté.
Mais c'est la capacité des enfants, et sûrement des artistes, de se figurer comme vrai ce qu'on a dans la tête.
De se figurer comme réel, aussi. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais quand dans Cujo, le petit garçon voit des monstres sous le lit, il se trouve qu'il y a vraiment des monstres sous son lit. Il y a vraiment, et il y a souvent des monstres sous le lit, des jolis petits lits d'enfants dans les familles. Ça, c'est quand même quelque chose que je dis là, et presque, je vais pas dire sociologique, mais enfin, je sais pas si c'est vrai, mais je sais que c'est réel. Et donc, certaines de ces peurs aussi sont réelles. Et quand je dis médium, cette capacité médiumnique, c'est une capacité c'est une forme de lucidité, voilà, de clairvoyance. C'est une forme de regard qui est clairvoyant. Et je pense que c'est pour ça que la figure de l'enfant, nous revenons toujours à cette figure de l'enfant quand il s'agit de la peur, parce qu'elle a quelque chose à nous transmettre.
Serge Pellissolo, quand on est éducateur, pour parler de la peur avec ses enfants, des siennes, mais peut-être d'abord des leurs, parce qu'on y est très souvent confronté. La première chose, c'est bien de reconnaître sa réalité, si on écoute bien Hélène Frappa.
Ou en tout cas de l'écouter. Ça, c'est évident que la première chose à faire pour que la communication continue entre les enfants et les parents, c'est de se mettre à leur niveau, hein, comme vous disiez, au niveau de la peur, le niveau d'enfant, et puis d'écouter et leur donner raison
sur
le fait que...
À leur hauteur, plus qu'à leur niveau.
Oui, leur niveau, pardon, leur hauteur, qui est de valider le fait qu'ils ont peur parce que bon, il y a aussi cette espèce de déni qu'on a tous sur les émotions en général, mais notamment sur la peur. Donc le fait de les écouter et de comprendre que réellement là, le réel, c'est qu'ils ont peur, ça je pense que là-dessus c'est le premier point.
Donc il suffit pas de dire qu'il y a pas de monstre,
exactement,
sous le lit,
que c'est pas dangereux, etc. Alors il y a un moment quand même, il faut le dire, que tout n'est pas dangereux, parce que bon, au-delà du symbole, il y a quand même aussi des vraies pathologies qui se développent chez des enfants, avec des phobies qui deviennent des vrais problèmes. Donc il faut qu'ils puissent être accompagnés vers des choses qui sont la vraie vie, la vie réelle et ses dangers, tout en étant accompagnés sur des expériences à faire, sur des choses qu'on peut leur montrer comme étant surmontable, vous disiez, dans les jeux tout à l'heure, ou dans des expériences non traumatisantes quand même, pour que finalement, oui, il y ait une communication entre les générations et que chacun partage ses expériences autour du danger réel ou supposé.
La peur comporte aussi une dimension politique, dans le sens où on nous apprend à avoir peur de certains ennemis, ennemis entre guillemets. La peur se construit contre les minorités, contre les femmes. La figure de la sorcière, vous le savez, intéresse beaucoup en ce moment. Il y a un ouvrage qui rencontre beaucoup de succès de la journaliste Mona Chollet. Ça m'a amené à lire La peur en Occident de Jean Delumeau. Bon, c'est un peu épais, j'avoue que je ne l'ai pas fini. Je me suis beaucoup intéressée à cette idée de la peur des femmes, particulièrement construite à la Renaissance. La figure de la sorcière, c'est la figure de la vieille femme. Ça nous fait détester à la fois un genre et un âge. Ces peurs-là aussi, il faut les combattre. Alors, c'est pas forcément la peur, mais se retrouver être l'objet de peur, et ça vaut pour plein de minorités, si on accepte le mot minorité à l'endroit des femmes. Bon, c'est un peu compliqué, mais vous avez compris ma question, Hélène Frappa.
Ah, mais il faut ouais. assumer le mot minorité. C'est pas parce qu'il y a une majorité numérique des femmes maintenant. Les femmes font partie, en effet, elles sont encore exclus en tant que minorité par une société patriarcale majoritaire. Ça, je pense que c'est ce que je dis est un lieu commun. En fait.
Et sur le fait donc de se retrouver en tant que femme âgée un jour à être une personne soi-disant effrayante. Est-ce que c'est ce qui m'attend? Je ne sais pas. En tout cas, la peur de l'étranger, la peur l'antisémitisme, le racisme, ce sont des peurs.
Oui, mais je crois que encore une fois le cinéma d'horreur, j'y reviendrai parce que moi je suis frappée, il ne fait pas partie pour le coup de la culture majoritaire, c'est fort dommage parce que je trouve qu'il aurait beaucoup à apprendre sorti de son public parfois un peu réduit. Ce qu'il nous apprend le cinéma d'horreur, et le cinéma d'horreur qui en fait n'est même plus un cinéma d'horreur car à l'époque que nous vivons, il est juste un cinéma documentaire. Hein, je pense aussi à des grands écrivains de science-fiction comme quelqu'un comme Ballard par exemple, qui, si on le relit maintenant, juste nous raconte le présent que nous vivons et qu'il a décrit il y a 70 ans maintenant. Donc, ce qu'on apprend dans ce cinéma-là, c'est que la peur, elle est en nous, elle est à l'intérieur. C'est par exemple ce que John Carpenter n'a cessé de filmer. C'est-à-dire que c'est pas la peur de l'Indien, c'est pas la peur du noir, c'est pas la peur qui est toujours à l'extérieur, en fait, elle est en nous. C'est la peur d'une part haineuse, monstrueuse de l'être humain, mais qui est à l'intérieur du soi, en fait. En effet, moi, dans un roman précédent, Lady Hunt, je m'étais intéressée à ces histoires de sortes dont l'héroïne était une rousse qui en plus avait hérité peut-être d'une malédiction génétique, qui était une maladie qui s'appelle la chorée de Huntington, dont son père était mort. Il se trouve que c'est très intéressant de voir, si on remonte au procès des sorcières, des soi-disant sorcières de Salem, que en réalité, une grande partie des femmes qui ont été à l'époque assassinées sous prétexte qu'elles étaient, elles incarnaient des figures de sorcellerie, souffraient de ce. Il y a des tests génétiques qui ont été faits très récemment et prouvant que en fait beaucoup avaient cette chorée de Huntington qui induisait certains symptômes, y compris psychiatriques, enfin et puis enfin chorée, c'est des mouvements anormaux, hein, et qu'en fait elles avaient été assassinées. Il y avait quelque chose d'une terreur de la femme qui avait été, enfin, on pourrait dire externalisée.
C'est bien l'histoire des sorcières en Occident de manière plus globale. Mmh.
Donc, alors là, c'est, je dirais que c'est le moment de connexion entre la question de la peur et celle de la haine. C'est ces deux questions-là qui me paraissent reliées, en fait.
Antoine Pellissolo.
Oui, qu'on retrouve très facilement dans les termes, parce que quand on parle de xénophobie ou d'homophobie, oui. On a l'impression que c'est une peur. Alors, derrière, il y a sûrement ces peurs-là, mais c'est quand même avant tout de la haine, de la détestation, du rejet. Et il y a toujours une confusion quand même très subtile entre ces termes-là, quand même, hein, et la peur qui vient de la peur de l'étranger ou de l'inconnu, c'est sûr qu'elle est sous-jacente. Et elle est ancestrale parce que c'est quand même on a survécu à des épisodes de guerre sûrement ancestraux l'étranger ou en tout cas le prédateur vient de l'extérieur en général, donc probablement les peurs profondes elles viennent de là, mais aujourd'hui elles sont véhiculées par d'autres, on sait bien, par d'autres mouvements, et au moins de décrypter ça, et je pense qu'il serait peut-être judicieux d'essayer de séparer les mots, quoi, si on pouvait le faire, de pas parler de xénophobie, par exemple, quand c'est vraiment avant tout de la haine.
Le mot phobie, donc galvaudé dans le langage commun.
Ne pas psychologiser la haine, hein, au sens où là, il me semble qu'on doit rester sur un terrain politique, légal, juridique, de peine d'emprisonnement, une forme de censure qui doit s'exercer, je pense, dans la démocratie par rapport à des discours de haine, et ne pas aller peut-être sur ce terrain plus psychologique de la peur.
Faire penser qu'il s'agit d'une pathologie qui pourrait justifier ou excuser les comportements. Mmh. Mais on le fait pour plein de choses, hein, pour des choses un peu plus légères. On a parlé beaucoup de phobie administrative, par exemple, récemment pour d'autres sujets.
Une façon de dire. Ça s'appelle de l'escroquerie, oui.
Ça peut être ça.
Merci de nous emmener sur ce terrain plus sympathique, mais sur ces figures soi-disant effrayantes et qui sont instrumentalisées. Là, il y a eu une éducation à faire, Antoine Pellissolo.
Il y a juste à faciliter le rapport à la nouveauté, on peut dire, ou à l'incertitude. Toutes les peurs sont quand même sous-tendues par l'incertitude, l'inconnu. Et donc, ce que doit faire normalement, ce que doit faire l'éducation, au sens très large du terme, c'est quand même de rendre les choses, d'amener du savoir, de la connaissance pour rendre les choses moins effrayantes. Donc, que ça soit le monde qui nous entoure, que ça soit l'avenir en général, je pense que pour les enfants en tout cas, ou pour chacun d'entre nous, c'est se rassurer en partie, ne pas se rassurer surtout, mais se rassurer en partie sur ce qui nous, sur ce qui peut nous arriver, même si c'est inconnu, on n'a pas la maîtrise de tout, mais on peut très bien se défendre, réagir sur quelle que soit la situation où on est, on peut probablement anticiper l'avenir autrement qu'en ayant peur de tout.
Voilà. Merci beaucoup pour cette conclusion qu'elle mérite d'être optimiste. Antoine Pellissolo, je rappelle le titre de vos ouvrages. Vous êtes votre meilleur psy, qui vient de sortir en poche, c'est chez Flammarion. Les phobies, faut-il en avoir peur? Chez Le Cavalier Bleu, c'est sur cet ouvrage que j'ai davantage travaillé pour préparer cette émission. Hélène Frappa, vos livres, je les conseille tous les deux. Le Dernier Fleuve, chez Actes Sud, ça vient de sortir, un peu plus ancien. N'oublie pas de respirer. Vraiment, c'est très sincère. Beaucoup aimé ces deux livres. Et puis, le numéro de Doolittle, Éléonore Terry, il est demain en kiosque. Dans un instant, la dernière rubrique de l'émission, la leçon de choses avec Philippe Besson. My Life, petit hommage à Tok Tok, un titre choisi par notre réalisatrice Somanina. On va passer à la leçon de choses de Sophie Bobert. Mener des études brillantes et ennuyeuses et à terme, à 20 ans, opter pour l'inconséquence et la légèreté. Voilà qui nous éloigne de notre sujet d'aujourd'hui, la peur. Souvenir d'un grand amour et d'une longue maladie durant les années sida avec Philippe Besson, pour qui tout commence dans une école, à la campagne et dans la classe de son propre père, instituteur.
Ah, je suis né dans le sud de la Charente, donc c'est une terre de vignes. Vous savez, c'est là où on fabrique le cognac et le pinot. J'ai grandi dans une école parce que mon père était instituteur. J'étais donc le fils de l'instituteur, le fils du directeur de l'école. Et ma chambre donnait sur les tilleuls de la cour de récréation.
Mais pour vous, est-ce que ça n'engendrait pas un sentiment de honte par rapport à vos camarades?
Disons que quand on est le fils de l'instituteur, oui, on est regardé toujours un peu bizarrement parce que les autres croient qu'on va être le chouchou. Et en l'occurrence, c'est exactement le contraire qui se passe. Parce que précisément, pour ne pas être accusé de favoritisme à l'égard de ses enfants, parce que j'ai un frère aîné qui a connu exactement le même sort, il était plutôt assez dur avec nous, il ne nous passait rien. Donc c'était plutôt des années, oui, sous sa coupe, sous son autorité. C'est pas des années où on a rigolé. Hein. Voilà, on était très obéissants et très disciplinés. Et on faisait ce qu'on attendait de nous.
Il n'y a pas d'échappatoire possible lorsque c'est son père qui est l'instituteur du CP au CM2.
Aucun échappatoire. On est là et on vit dans cette bulle.
Mais alors, on peut comprendre ce désir de performance, d'être à la hauteur des attentes de vos parents, de votre père en particulier. Mais comment expliquer, Philippe Besson, cette espèce de d'appétence pour l'inconfort et la périphérie?
Ça tient, j'imagine, d'abord à ma sexualité que j'ai découverte assez rapidement. Donc, j'ai compris que j'étais homosexuel vers l'âge de 10 ans et j'en ai pas été accablé du tout. Au contraire, j'ai trouvé ça formidable parce que je me suis dit, voilà enfin une différence. Voilà enfin une singularité pour quelqu'un comme moi qui est tellement normé, qui fait tellement ce qu'on attend de lui. Au moins, ça déconne, ça disjoncte. Mmh. C'est pas comme il faudrait.
Ça sort de la bulle.
Absolument. Donc, j'ai plus, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai assumé mon homosexualité finalement assez bien parce que je me suis dit, ça fait de moi quelqu'un d'un peu différent, tant mieux. Au lycée ou ailleurs, c'était différent. Il y avait des colibés, il y avait des insultes, il y avait des injures, il y a eu parfois un peu de violence ou de bousculade, on va dire. Mais mes parents, non, ça s'est extrêmement bien passé avec eux, oui.
Le titre de votre nouveau roman, Un certain Paul d'Harry Grant, fait penser à celui de Françoise Sagan, Un certain sourire. Et ça commence en effet par une sorte de marivaudage un peu cruel. Mais à la différence près que, avec vous, la question de la mort et de l'inhibition finissent par écraser cette idée initiale de légèreté. Et vous écrivez, je vous cite, « Ainsi, je serais tombé malade juste après être tombé amoureux. » C'est-à-dire que vous tombez amoureux d'un homme, vous avez peur de le perdre, mais vous perdez vos plaquettes.
Oui, je deviens extrêmement fragile, je cours l'hémorragie à n'importe quel moment, donc j'ai cette épée de Damoclès au-dessus de la tête pendant de longues semaines. Mais bizarrement, cette sensation d'abandon, de ne pas s'appartenir, de ne rien décider, n'était pas entièrement désagréable. C'est-à-dire que, précisément, l'abandon, c'est agréable, parce que plus rien ne dépend de vous. Donc, voilà, j'étais amoureux et soumis, et j'étais malade et sujet, et j'attendais de voir ce qui allait se passer. Voilà.
Et quelque part, ça dénote d'une grande confiance, sciemment ou pas, hein, de se laisser porter comme ça et de se laisser abandonner.
Oui, en tout cas, il y avait l'idée que j'avais 20 ans et donc je voulais être du côté de la légèreté, de l'insouciance et de la désinvolture.
Oui, vous ne voulez pas mourir. Hein.
Non, je ne voulais pas mourir et je ne pensais pas que j'allais mourir. Je me suis dit, je ne vais pas mourir dans cette affaire, ça ne va pas arriver ça. Alors que pourtant, encore une fois, on est dans une époque où autour de moi, les gens mouraient beaucoup.
C'était les années sida.
Absolument.
Mais vous n'avez pas le sida, vous avez une thrombopénie.
Absolument, je n'ai plus de plaquettes sanguines, donc je ne coagule plus du tout. Donc ça veut dire que si je me mets à saigner, si j'ai un accident, a priori j'y passe. Voilà, et si une hémorragie survient, j'y passe aussi. Et donc c'est vrai que c'est assez curieux, parce que je sais ce que c'est qu'être mortel quand même, parce que je l'ai vu autour de moi. Mais moi, je ne me crois pas mortel, c'est-à-dire je ne pense pas que je vais succomber dans cette affaire. Sans doute, encore une fois, parce que l'amour me sauve. C'est-à-dire qu'au fond, je suis bêtement amoureux, je suis un peu imbécile, je suis un peu idiot comme on l'a. Et puis il y a aussi que c'est ma dernière année d'études. Donc c'est le dernier moment où je peux être justement un peu insouciant et inconséquent. Après, je me doute que ça va être la vraie vie, que ça va être la vie sérieuse, avec un salaire, avec un contrat de travail, avec des horaires.
Avec des conséquences.
Voilà, avec des responsabilités peut-être. Alors donc là, je peux être irresponsable une dernière fois. Je peux être léger et inconsistant une dernière fois. Alors je le suis.
Et Philippe Besson vient de publier Un certain Paul d'Harry Grant. Chez Julliard, c'était la leçon de choses de Sophie Bobert et c'était Être et savoir avec Somanina à la réalisation. Avril Ventura, avec qui je prépare cette émission chaque semaine, dans la joie, parfois aussi un peu dans la peur. Merci à Ludovic Auger à la prise de son. J'espère, chers auditeurs, que vous ne souffrez pas de pédiophobie, soit la peur des poupées. Nous parlons de la Barbie, la poupée Barbie qui vient de fêter ses 60 ans. La semaine prochaine pour une émission sur cette poupée et toutes les questions qu'elle a pu poser à travers son histoire donc de 60 ans. J'ajoute que le 17 mars, donc dans deux semaines, nous serons en direct et en public au Salon du Livre. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur notre chaîne.